Jean de la Brette, Le Rubis. Chapitre 1. Je me suis souvent demandé, ayant eu à me plaindre de beaucoup de gens, si la délicatesse quintessentiée dont on parle dans les livres existait en réalité. Était-elle une création abstraite ou l'expression d'une observation éclairée? Longtemps, ma misanthropie s'est prononcée pour la négative, et voici que, sur mes vieux jours, j'ai touché du doigt cette fleur de l'honneur dont l'existence me paraissait problématique. Je l'ai vue respirer dans l'intimité d'un cadre que je trouverais inspirante si j'étais un écrivain. Il me souvient que j'étais dans le jardin, en train de sarcler mon potager, la tête couverte d'une coiffure qui n'avait rien d'aristocratique, mais me garantissait parfaitement du soleil de mars. Des gants souples, mais épais, protégeaient mes mains, et un grand tablier à bavette me montait jusqu'au cou. Ainsi costumé, et malgré mes 70 ans que je portais allègrement, je travaillais avec ardeur, quand s'ouvrit la barrière qui séparait ma cour minuscule de mon minuscule jardin, et mon cousin Ethel, que je n'avais pas vu depuis 10 ans, s'approcha de moi. 10 ans, c'est un bail, et après les salutations d'usage, nous nous regardâmes avec défiance. Moi défiante, parce que, sans hésitation, je soupçonnais qu'on avait chose difficile à me demander, lui parce qu'il ne savait comment j'accueillerais sa demande. Geoffroy Ethel était d'un naturel timide. Il avait jadis épousé une jeune veuve qui, dans la vie de famille, ressemblait trait pour trait à un dragon, et, depuis cette aventure, sa timidité en abordant une femme devenait presque comique. Cependant, il savait que la méchanceté ne se dissimulait pas sous la raideur apparente qui m'enlève si souvent la sympathie des indifférents, que Dieu bénisse. Je le trouvais peu ou point changé, mais, en disait-il autant, de mon visage parcheminé et de mes cheveux blancs, bien que, débarrassé de ma tenue de jardinier, je fusse redevenue une vieille dame présentable. Un an auparavant, Geoffroy avait perdu sa mère, et lorsque je lui parlais sympathiquement de son malheur, il entra aussitôt dans le vif de la question. « C'est à ce sujet que je viens vous trouver, ma cousine. »« À ce sujet, comment cela ?»« Depuis la mort de sa grand-mère, ma fille est bien seule. Je ne puis, par suite de mes occupations, sortir toujours avec elle, et mes absences sont fréquentes. Vous plairait-il de venir habiter avec nous ? Manette, si jeune maîtresse de maison, serait heureuse de s'appuyer sur vous. » Quoiqu'un peu distraite, un peu éloignée dans ma solitude des réalités de la vie, je ne suis pas toujours une naïve, et à la déclaration de Geoffroy, je répondis par un seul mot, auquel je donnais toute l'énergie désirable. « Oh !»« Comment, oh ?» me dit-il tout effrayé en me regardant timidement. Jamais maîtresse de maison n'a aimé une ingérence sur son terrain, mon cousin. Je n'ai pas le désir de me faire prendre en horreur par votre fille. Je ne suis pas inquiet, vous vous entendrez très bien, répliqua-t-il avec le bon sourire que j'ai toujours aimé. Mais avant tout, rappelez-vous, si vous consentez, dans quel intérieur vous entrerez. Je vis au jour le jour, ou à peu près, et bien que les émoluments de mon travail soient suffisants, je ressemble assez à un gueux. » Peut-être croyait-il m'émouvoir en posant ainsi la question, et de fait, cela fut loin de lui nuire. Geoffroy a toujours été un homme intelligent, fin et très bon. « Pour cela, n'en parlons pas, répondis-je. Vous connaissez le chiffre de mes rentes, rente viagère qui plus est. Il est si mince que, hors d'une petite ville, je n'aurais pu vivre. » « Vous réfléchirez, vous ne refuserez pas d'emblée ?»« Oui, je réfléchirai, mais ne gardez pas grand espoir. Vous savez que, plus d'une fois, dans la branche riche de notre famille, on m'a proposé des postes de confiance. »« Non, je ne le savais pas. » »« Eh bien, apprenez-le, apprenez aussi que j'ai toujours répondu, au moins à moi-même, « Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. » »« Je le comprends. » L'eau, dans ces conditions, eût été amère. Mais chez moi, ce serait différent. Vous vivrez de vos rentes, après tout, puisque vous paierez pension. Vous changerez seulement de maison et vous me rendrez un immense service. Nous verrons. Ainsi présentée, la situation, évidemment, prenait une autre allure. Je ne remplacerai jamais la grand-mère de Manette. Non, mais vous serez une amie, et malgré vos dénégations, un appui. La proposition m'agréait peu. Néanmoins, Geoffroy parvint à me faire discuter les détails d'un déménagement et je voyais au clignement de son œil bleu qu'il croyait la partie gagnée. Il me parla de sa fille avec une tendresse qui m'émut. Elle était, d'après lui, un parangon de sagesse et sa gaieté, la joie intarissable de sa maison. « Vous l'avez vue enfant, me dit-il. Vous la rappelez-vous ? » À peine. Je n'ai fait que l'entrevoir, si vous vous souvenez. Je me rappelle des yeux bleus ressemblant aux vôtres et des cheveux blonds. Pourquoi ce nom de Manette ? C'est le dérivatif de son nom véritable. Il plaisait à sa mère et lui restait. Il lui va bien, vous verrez. Malgré son optimisme, il partit le jour même sans obtenir de réponse, mais sans douter, je crois, du résultat de mes réflexions. À vrai dire, elles ne furent pas longues. Mon isolement me pesait souvent. Toutefois, habitué à vivre seul, je redoutais, à mon âge, un changement d'habitude aussi complet. Je ne puis dire changement de vie, car l'intérieur de mon cousin, avec plus d'espace, ressemblait au mien. Je veillerai à ne déranger personne, et, chaperon discret, je laisserai cet enfant agir d'après son inspiration. Personne ne requérait mon expérience pour conduire la maison, et, très certainement, ma jeune cousine tenait à ses prérogatives. Mais on me demandait un service, pourquoi ne pas terminer ma vie sur ce geste amical ? Et si Manette ressemblait à sa mère, que deviendrais-je ? Ce n'est pas, je crois, que Madame Etel fût une méchante femme dans toute l'acception du mot, mais elle aimait à faire siffler sa baguette et passer à bon droit pour être souvent d'humeur terrible. J'hésitais donc encore, et très perplexe, je partis pour Oiron avec l'idée de consulter une vieille amie qui venait d'y arriver comme supérieure de l'hospice. Elle me dissuada d'accepter et son raisonnement me parut si sage que, au premier moment, ma perplexité augmenta. « Je suis bien indécise, dis-je. » « Alors réfléchissez, laissez passer quelque temps, ma chère amie. » J'aimerais mieux prendre sans tarder un parti définitif. L'incertitude est fatigante. Et puis, refuser un service. Une femme de mon âge ne compte plus et ses habitudes, avant le dernier départ, n'ont qu'une importance très relative. « Que cette réponse est bien de vous, dit-elle en souriant. Au fond, je vous crois décidée et votre indépendance se débat inutilement. » Vous ressemblez aux gens qui demandent le conseil répondant à leurs secrètes décisions. Je me récriais, mais sans me l'avouer, je sentais qu'elle avait mis le doigt sur la vérité. Au fond, le seul résultat immédiat de mon déplacement fut de passer des heures agréables avec mon ami et de revoir, avec un intérêt toujours vif pour moi, le petit hospice fondé par Madame de Montespan. Il est la simplicité même. Ainsi l'a voulu sa fastueuse fondatrice. Une cour pleine de fleurs qui sont l'orgueil innocent des religieuses et fermée de tous côtés par des bâtiments bas à un seul étage. Ils sont bien vêtus, mais toujours accueillants. La vieille porte d'entrée a vu passer 3 siècles et le même petit Judas s'ouvre discrètement pour que, aux heures insolites, la sœur, avant d'ouvrir, examine la mine des visiteurs. Dans une salle, le portrait par Mignard de la marquise attire les touristes. « Nous aimons tant notre fondatrice, me dit mon amie en regardant avec complaisance cette beauté aux yeux inquiétants et à la belle main des Mortemar. » Mignard l'avait représentée sortant du bain, mais plus tard, on a jugé décent de la draper sans se soucier de faire perdre ainsi à ce beau portrait une partie de sa valeur. L'amour des religieuses pour cette éblouissante coquine me semblait le plus amusant des paradoxes. D'ailleurs, la pénitence de la marquise, quand je me remémorais sa vie, me laissait non pas méfiante, mais un peu froide. Quoi qu'il en soit, la Montespan était bienfaisante, et non seulement le bien qu'elle a fait à Oiron se prolonge, mais les prières exigées par elle dans son hospice se disent encore. Chaque jour, de par sa volonté, les sœurs récitent un chapelet pour Louis XIV. Avant de quitter Oiron, j'allais une dernière fois dans le château où la marquise avait dû se retirer. Elle y vécut avec les ombres royales de François Ier et d'Henri II. Le roi Soleil vint la visiter. Il fut reçu dans la grande salle des fêtes et dans le cabinet aux muses dont les lourds plafonds, d'un goût détestable, ont conservé leur dorure et leur bleu cru. Des peintures représentent, dans le même médaillon, Lavallière, Montespan et Maintenon. Du moins, on me l'a dit, et j'ai bien voulu le croire. Chaque époque a ses compromis et produit des étonnements. Une longue terrasse à balustrade de pierre règne sur la longueur de l'aile construite au XVIIe siècle. L'effet en est exquis. En descendant, je suivis la galerie ouverte dont les voûtes du XVIe siècle aux fines arêtes sont si jolies. Et, détail captivant, les murs conservent encore des chiffres et des signes qui désignent le nom ou la race des chevaux de François Ier. Cette magnifique demeure, aux grands airs abandonnés, de trois époques différentes, a été, durant des siècles, remplie de mouvements, de chasses, de fêtes et d'élégance. Nul lieu n'est plus évocateur, malgré la mort de vandalité du pays, en désaccord avec tant de bruit et de grandeur passées. Mes pauvres petites affaires, pendant que j'errais dans ces pièces invisiblement peuplées de rois, de grands seigneurs et de femmes parées, semblaient réduites à rien. Cette impression me poursuivit sous les quinconces, dans la collégiale, et s'évanouit quand je rentrai dans ma maison étroite. Mais je crois que la vue d'un palais avait contribué à ébranler la force de mes objections. Il me semblait que je respirerais mieux sur un plus vaste champ. Je constatai que les contrastes ne valent rien, même pour une vieille tête, et que, en dépit du proverbe, il y a de bien petits chez soi. Néanmoins, et malgré l'opinion de mon ami, j'hésitais encore lorsque je reçus une lettre de Manette. « Madame et chère cousine, vous m'avez connue lorsque j'avais 12 ans, c'est-à-dire que vous ne me connaissez pas, et je comprends vos hésitations, mais moi qui vous connais mieux, je désire extrêmement que vous veniez au Bourdon. Je vous sais bonne, intelligente, je sais que des malheurs d'argent vous ont décidé à vivre toute seule à Hervaux, dans votre coin, sans rien demander à qui que ce soit. Je sais que vous passez pour un peu bas-bleu, parce que vous lisez beaucoup, et pour original, parce que vous ne pliez votre jugement qu'à bon escient. Bref, vous avez, je crois, un caractère, et alors vous me plaisez infiniment. Voilà une franche déclaration. Ce que je suis, moi, une rieuse, bien que j'ai beaucoup réfléchi, un peu souffert, par-ci par-là, en dehors de notre deuil. Mais imaginez que la nature m'a douée d'une gaieté qui me montre sans cesse le côté heureux et plaisant des fêtes, si bien que les fêtes, je parle naturellement des petits, passent sur moi sans me blesser, malgré leurs petites pointes plus ou moins longues. Voilà, ma cousine, les grandes lignes de mon caractère. Naturellement, j'ai une foule de défauts, comme tout le monde, mais arrêtez-vous aux grandes lignes, je vous en prie, et venez. Vous verrez que nous ne nous battrons jamais. Si vous désirez savoir où j'ai puisé une partie de mon jugement sur vous, je vous dirai que nous avons, comme voisin et ami, M. Lafade, l'ancien préfet, dont vous avez connu la famille. Il me disait hier encore que sa mère lui parlait souvent de vous, madame, et que lui-même ne vous avait pas complètement oublié. Cette lettre, qui n'indiquait pas un esprit banal, eut le don de me plaire et de me décider. Je répondis aussitôt par un court billet. « Ma chère Manette, je désire que le jugement porté sur moi par M. Lafade se confirme quand vous me voyez, car j'accepte un essai. Si la sympathie est réciproque, nous nous aiderons mutuellement à émousser les pointes dont vous parlez. La gaieté les cache souvent sans les détruire. À bientôt. » En même temps, j'écrivis à Geoffroy pour lui indiquer la date de mon arrivée. Dans la crainte de nouveaux atermoiements, je brûlai les ponts derrière moi. J'expérimentai en effet que l'attachement aux entours matériels est chose à peine croyable et qu'ils vous tiennent par des fibres secrètes difficiles à briser. J'avais passé des années bien ternes à Hervaux, et je m'aperçus que cette curieuse petite ville, triste, ramassée sur elle-même, prenait soudain à mes yeux un intérêt extraordinaire. Pourtant, elle suinte l'ennui. Bâtie sur le versant de deux légers coteaux, elle dévale vers le centre, c'est-à-dire vers les trois vallons où a été construite la belle église du XVe siècle. On y pénètre, après avoir descendu 15 marches, en s'étonnant que le monument ait été édifié au fond de cet entonnoir, assez profond pour que l'église, malgré sa hauteur, voie ses toits de niveau avec les maisons qui l'entourent. C'est la singularité des basiliques, comme celle d'Hervaux et de Saint-Jouin, sa voisine de quelques kilomètres, d'avoir l'air de prendre racine au fond de la terre. Et l'église de Saint-Jouin a cette particularité de posséder une nef qui descend assez pour que l'allée principale soit coupée deux fois par deux marches. L'abbaye d'Hervaux s'étendait fort loin. Qu'en reste-t-il ? Une magnifique église et les salles voûtées de la gendarmerie. Les vieilles rues d'Hervaux, avec leurs maisons basses, petites, écrasées, revêtaient, au moment de les quitter, un prestige que je ne leur avais jamais vu. Elles sont laides, tristes et pauvres, mais les masures du XVe siècle, ou antérieures à cette époque, sont ornées de fleurs en été. Aux fenêtres microscopiques, sur des balcons improvisés avec des boîtes en bois, s'épanouissent des cactus éclatants, des œillets aux grandes fleurs et des fuchsias démodés. Dans les rues mêmes, les murs misérables soutiennent des treilles florissantes. Certains coins de terre qui terminent l'alignement, à l'angle des maisons, sont cultivés et des fleurs bordent la voie. Rien de petit, de minable, comme ces rues qui aboutissent à la place de l'église, où des halles affreuses déshonorent l'aspect pittoresque de la ville. Par un soleil éclatant, Hervaux paraît habitable, mais quand le ciel est bas, que les nuées l'écrasent et que la pluie transforme les rues en petits torrents, c'est à fuir. Ainsi songeais-je, la veille de mon départ, lorsque, descendu au bord du Touet, je levai les yeux vers la petite cité. Cependant, malgré les heures de tristesse et d'ennui, je la quittai avec des regrets inexplicables. De plus, le pays ailé, à part les bords du Touet, aux cours frais et sinueux, tantôt encaissés, quand, par aventure, il rencontre des coteaux, tantôt courant dans de vastes prairies dont il affleure les herbes. Je suppose qu'autrefois, le pays était en forêt, avec des loups, des louveteries et des chasses passionnantes. Actuellement, sauf quelques bois de gros taillis, il est transformé en grande plaine de céréales. Au loin, de basses collines boisées les entourent et donnent à la contrée l'aspect de vastes cirques successifs. Cette laide monotonie contraste avec les monuments superbes et pleins de souvenirs qui couvrent le pays dans l'espace de quelques lieux, Oiron, Saint-Jouin-les-Marnes, Hervaux. Quand je remontai la côte, une jeune et jolie fille ébouriffée me salua. Elle était assise sur la margelle d'un des puits creusés à chaque pas dans la ville d'Hervaux. Je l'avais connue enfant. Elle me manifesta aimablement ses regrets de mon départ. Ce fut une des rares manifestations de sympathie dont j'ai gardé le souvenir, car j'avais vécu très solitaire depuis que la plupart de mes amis reposaient sous des cyprès. Après avoir accueilli tant d'impressions inutiles, je quittai ma maison, mes habitudes, mes souvenirs moroses, pour m'en aller au Bourdon et voir chacun s'abreuver à la fontaine, après avoir juré comme moi de n'en rien faire. Je devais vivre en Anjou, à 1500 mètres environ de la Loire, mais malgré la civilisation du pays, l'habitation de M. Etel ne se découvrait pas facilement. Ma voiture roulait depuis longtemps sans que j'eusse aperçu la maison de mon cousin. Enfin, nous tournâmes dans une longue avenue, tracée au milieu d'une futaie de beaux chênes. Elle aboutissait à un jardin entouré de larges fossés, fermés au milieu et sur les côtés par des grilles légères, qui, rouillées par le temps, se perdaient dans la tonalité des arbres. Une allée droite conduisait à la maison, construite en 1760. De lignes simples et harmonieuses, elle me parut charmante par son absence complète de prétention. Elle conservait les carreaux de l'époque et son fronton orné du chiffre de la famille Etel. Mais les contrevents vermoulus, les portes sans couleur, indiquaient la gêne du propriétaire. Le jardin, petit pour un jardin de campagne, 2 hectares environ, était naturellement dessiné à la française. Lorsque je le vis en pleine floraison, du printemps à l'extrémité de l'automne, des fleurs surannées s'ouvraient partout sous mes pas. Belles de nuit, immortelles, balsamines, rosiers d'anciennes espèces aux longues tiges chargées de fleurs. Des touffes de thym cultivées, des romarins odorants, des arbustes fleuris que je n'avais jamais vus et dont le nom m'échappe, entourés des légumes variés et abondants. Une allée de charme, qui longeait le fossé à droite et à gauche de l'entrée, prenait toute la largeur du jardin. Comme orangerie, car à l'époque il fallait toujours une orangerie, on avait construit un bâtiment miniature qui n'avait jamais, je crois, contenu d'oranger. Enfin, plus tard, les bassins du Trianon entant toutes les cervelles, un bassin avait été creusé au beau milieu de l'allée principale, si bien que tout le monde tombait dans l'eau et que la génération suivante, plus raisonnable, le fit combler. L'autre façade de la maison donnait sur une cour entièrement fermée. Un très haut portail la séparait d'un chemin vicinal. La cour était entourée de nombreuses servitudes. Petites écuries à porcs, à poulets, à vaches, réduits pour serrer les outils, le sable, les cuves, chambres pour jardiner, que sais-je encore. Rien n'avait été oublié pour une exploitation simple et pratique. Un grand puits abandonné était couvert de mousses et de pampres sauvages. Des treilles aux raisins délicieux s'étendaient sur les murs. Autrefois, cette cour très animée, avec ses bêtes nombreuses, avec l'activité des travailleurs, n'avait pas l'aspect que je lui voyais aujourd'hui. Seules des volailles, que Manette soignait elle-même, picoraient tranquillement, et un chat dormait au soleil, les 4 pattes en l'air. Dans le jardin, un second puits pittoresque procurait une eau limpide, dont un petit réservoir était toujours plein pour les nécessités de l'arrosage. Les habitants, depuis 150 ans, s'appliquaient à conserver la même physionomie, à la propriété enfouie loin du bruit. On pouvait dire que les mêmes roses avaient été cueillies, respirées, par les ancêtres de Geoffroy. Quel cadre charmant ! La maison, intérieurement, captivée par le bon goût de son arrangement vieillot. Après avoir gravi 3 marches basses, on pénétrait directement dans une salle à manger à boiserie. Elle communiquait avec un grand salon. L'architecte de la maison, ayant simplement oublié l'escalier sur ses plans, l'avait édifié après coup dans un coin, et avec sa jolie rampe en bois, il me parut parfaitement réussi. J'étais venue une seule fois, jeune fille, au Bourdon, et n'en avais gardé que le plus vague souvenir. Par des prodiges d'économie, Geoffroy et elle réussissaient à conserver une maison que sa fille aimait autant qu'il l'aimait lui-même. Presque toute sa vie s'était passée à Paris, à part les vacances obligées, mais depuis quelques années, il demeurait 8 mois sur 12 à la campagne où il travaillait assidûment. D'abord, il envoyait régulièrement des articles à un grand quotidien. Ensuite, expert à déchiffrer les écritures, il mettait en ordre les papiers de famille qu'on lui confiait. Geoffroy répétait volontiers qu'aucun roman n'approchait des réalités que ses travaux lui découvraient, mais il se bornait à cette remarque générale et personne ne pouvait se vanter d'avoir vaincu sa discrétion et son honnêteté. Manette et son père m'attendaient devant la maison. Ils m'accueillirent en m'embrassant cordialement. Manette, de taille assez grande, assez forte, fraîche comme une rose, avec un visage plein et joli, me fut aussitôt sympathique par ses manières naturelles, son gai sourire, ses yeux francs, vifs et mobiles. Jamais expression rieuse n'a mieux caché le caractère d'une femme. « Avec quelle impatience vous étiez attendue, madame ?» me dit-elle en m'introduisant dans une vaste chambre qui m'eût paru bien si elle avait été meublée. D'un air amusé, elle suivait mon regard étonné. « C'est nu, n'est-ce pas ? Mais j'ai refusé qu'on modifiât l'aspect de l'appartement afin que vous constatiez, madame, que la place ne manque pas pour votre propre mobilier. » J'espère en effet que vous ne tarderez pas à faire venir vos meubles et à vous installer complètement chez nous. » Elle me montra un grand et commode cabinet de toilette, puis ouvrit dans la chambre une porte-fenêtre pour me faire passer sur une petite terrasse d'où on dominait des champs et des prairies. J'eus alors tout à coup le souvenir très vif de ma première et seule visite au Bourdon. C'était certainement sur cette même terrasse que le grand-père de Geoffroy, qui me faisait visiter son habitation, me racontait les souvenirs de sa famille pendant la Révolution. On s'était battu jusqu'au pied de la maison qui avait recueilli plus d'un blessé. Aujourd'hui, le bruit d'instruments aratoires remplaçait celui des fusils et dans les prés où chouans et bleus bataillaient, des enfants gardaient leurs troupeaux sans jamais se préoccuper d'anciens souvenirs. Comme toujours, les générations ont oublié et la vie moderne efface de son large pied les vieux sillons. 50 ans avaient passé depuis que mon vieux cousin me contait ses souvenirs. 50 années. Quand je me retournai, je vis au regard de ma jeune cousine que je m'étais longuement égarée dans mes rêveries. Si fraîche, si jeune. Intérieurement, je souhaitais que les 50 ans à venir, qui devaient ensevelir sa jeunesse et ses désirs, ne fussent ni ternes ni insipides. Pardon, Manette, il faudra vous accoutumer aux longues distractions d'une vieille femme qui a vécu longtemps seule. Je suis enchantée, dit-elle vivement, de vous découvrir si vite un défaut. Venez maintenant, madame, dans la chambre que vous occuperez en attendant votre décision définitive. Ses manières franches et simples, ses réponses spontanées, mirent bientôt pour moi un vif agrément dans nos relations et détruisirent peu à peu mes inquiétudes. Elle avait des vivacités qui, sans son éducation, eussent aisément dégénéré en tempête. De ce côté, l'atavisme existait, mais elle réparait ses torts, tantôt par un mot indirect et délicat, lorsque son orgueil, qui était grand, ne se résignait pas à aller plus loin, tantôt par un aveu bien net de son erreur. Jusqu'à la mort de sa grand-mère, femme de tête et d'excellent cœur, qui avait parfaitement élevé sa petite fille, Manette avait peu souffert de sa pauvreté, mais quand, devenue si jeune maîtresse de maison, elle vit de plus près à quelle mesquinerie il fallait s'astreindre pour équilibrer son budget, elle fut extraordinairement déçue. Toutefois, elle entra aussitôt dans le rôle que la situation lui imposait, car elle cachait sous sa gaieté des qualités étonnantes que la vie commune et bien plus encore les circonstances me dévoilèrent. Je vis promptement qu'elle souffrait du labeur incessant de son père, qui, ployé sur une besogne souvent très ingrate, ne s'accordait aucun repos. Elle savait que l'avenir de sa fille était la constante préoccupation de M. Etel et qu'il souffrait cruellement d'une insécurité à laquelle ses efforts ne pourraient jamais remédier. C'était donc, comme il me l'avait dit, la vie au jour le jour, vie pleine de soucis, atténuée par la gaieté de ma jeune cousine. Elle jouait avec la pauvreté comme en jouaient les anciens émigrés, et malgré ses ennuis ou ses déceptions, s'amusait souvent des petits prodiges d'économie que son ingéniosité multipliait. Personnellement, je connaissais bien ces rouages infimes d'un budget qui frôle de si près la misère. Manette, au début de nos relations, s'efforçait de me dissimuler les roueries de son ménage. Elle craignait qu'ayant une mauvaise impression, je ne voulusse pas demeurer au Bourdon, mais un beau matin, elle entra dans ma chambre pour me dire gaiement « Ma cousine, pourquoi me dissimulez-vous votre science ?»« Ma science ?»« Oui, oui, vous voyez très bien mes efforts pour me tenir sur la corde raide. » « J'attendais, dis-je avec précaution, que vous voulussiez bien m'apprendre vous-même tous les mystères d'un civet sans lièvre. » Elle s'assit en riant près de moi. « Avouez du moins que mes poulets sont des poulets, tout éthique qu'ils soient. »« Pas si éthique et très bon qui plus est. » »« Alors, ce n'est pas pour cela que vous ne vous décidez pas encore ?» Mais, ma pauvre Manette, ma façon de vivre était, en moins bien, la même que la vôtre, et d'ailleurs, comment pouvez-vous supposer ? Je ne suppose rien, interrompit-elle vivement, je vous crois au-dessus de ces misères. Ma sympathie pour vous deviendrait une grande affection. Vous êtes une vieille femme aimable, charmante à mon gré. Voilà des compliments qui ne me sont pas souvent adressés. On m'accuse généralement d'être raide, insociable, trop silencieuse, que sais-je encore ? Vos accusateurs manquent de perspicacité, mais moi j'ai de bons yeux, je vous assure. Vous avez, il est vrai, une façon distante de regarder les gens qui ne les encouragent pas, mais ce n'est pas pour me déplaire. » Sa réponse, je ne sais pourquoi, me fit sourire un peu tristement. « À mon âge, on a quelques raisons d'être distante, mais aux vôtres. Et pourtant, Nanette, derrière votre gaieté, je vois un quelque chose qui tiendrait en respect la familiarité. « Vous observez bien, » dit-elle avec plus de sérieux que ne l'exigeait ma remarque. Peut-être avait-elle l'intuition d'une clairvoyance qui voyait déjà plus loin qu'elle ne l'eût désiré. Quoi qu'il en soit, notre conversation, en apparence insignifiante, mit entre nous du liant et de l'intimité. Manette continua ses explications sur son ménage, sans y mettre de l'amertume, mais sans cacher les difficultés qu'elle s'efforçait d'écarter. « Que de petites ficelles !» répétait-elle en riant. « Et moi qui déteste les ficelles !» Mais imaginez qu'on finit par s'y intéresser quand on voit les résultats. Et, de fait, cette heureuse nature eût trouvé de l'intérêt dans une épluchure de carottes si l'épluchure avait servi dans son petit gouvernement. Elle était sans cesse préoccupée d'apporter un peu de bien-être autour d'elle sans que son père aperçût les efforts que nécessitait cette modeste ambition. Mais il voyait très clair et n'en aimait sa fille que plus passionnément. À des allusions sur ses inquiétudes, elle répondait gaiement à son père « Nous vieillirons ensemble, vous êtes jeune encore, et j'aime ma vie qui me paraît souvent aussi amusante qu'agréable. »« Amusante ? Je m'entends, nous avons des arrangements si comiques. » Le pauvre père soupirait, il savait que la pauvreté de sa fille ne lui permettrait pas de se marier, du moins très probablement, et bientôt mon cœur saigna lorsque, tout à fait installé au bourdon, j'écoutais les confidences de Geoffroy. « Mon rêve, me disait-il, est de réaliser une somme suffisante pour permettre à Manette, quand je serai parti, de posséder au moins une modeste indépendance. Car comment lui trouver un mari ou lui conseiller d'accepter un collier de misère ?»« Point n'est besoin de se marier pour être bien, répondis-je, et vous vivrez peut-être très vieux. » Mon court passage dans le mariage ne m'en avait pas laissé un souvenir assez délicieux pour que le célibat me parût un sort si funeste. Mais enfin, un accident personnel ne peut rien contre la loi naturelle, et je comprenais Geoffroy. « C'est bien dur, je vous assure, me dit-il, que le sort d'un être aimé par-dessus tout soit subordonné à l'aléa d'une vie plus ou moins longue. » « Mais, répondis-je, Manette pourra, comme tant d'autres, contracter un mariage de raison et se trouver heureuse ou découvrir des ressources dans le travail. N'a-t-elle pas quelques talents ? À notre époque bouleversée, tout le monde devrait travailler. Je connais des gens qui possèdent 100 000 francs de rente et qui font apprendre un métier à leur fille en prévision d'un avenir incertain. » Geoffroy secoua la tête d'un air désolé. « Non, Manette n'a aucun talent, malheureusement. Elle a reçu une excellente instruction, c'est tout. Je croyais pouvoir la doter en m'imposant un travail acharné, en mettant de côté, chaque année, des économies. Mais mon travail ne m'a fourni que la vie nécessaire. Certainement, nous n'avons jamais fait de folie, nous avons subi et subissons la nécessité. » Cependant, les prévenances qui l'entouraient et la gaieté de sa fille ranimaient son courage. Il se disait alors qu'après tout, il fallait suivre le fil de l'eau sans exagérer des craintes qui souvent ne se réalisent jamais. Toutefois, Manette ne cachait pas ses idées sur le mariage et les résumait dans une phrase lapidaire « tout ou rien ». « Et comme on ne trouve jamais tout, disait-elle en riant, je mourrai indépendante. » Geoffroy haussait les épaules en se disant que de semblables résolutions fléchissent facilement, sans soupçonner d'ailleurs un instant le secret espoir de sa fille.